Épilogue. Plutôt le même jour, en allant acheter des légumes au marché de Mercer, James Lacey tomba sur Tony. Gênés, ils se regardèrent un moment, puis James dit « Je me suis couvert de ridicule, Tony, à l'âge que j'ai. Je suis désolé. » « Je suis aussi fautif que vous, » répondit Tony avec un sourire timide. « Tenez, c'est l'heure du déjeuner. Vous vous joignez à moi ? Pourquoi pas ?» Ils quittèrent la place pour se diriger vers l'hôtel George. La journée était sombre et la lumière était allumée dans la salle de restaurant. Après qu'ils se furent assis, James remarqua une petite bague en diamant qui brillait à l'annulaire de Tony. « S'agit-il de ce que je pense ?» demanda-t-il en pointant la bague du doigt. « Oui, » répondit Tony. « J'ai enfin rencontré quelqu'un. »«
Pas aussi vieux que moi, j'espère, » fit James.
« Il est étudiant en médecine, » expliqua Tony. « Il s'appelle Frank Evans et il a 2 ans de plus que moi. »
« C'est formidable. Vous avez une photo de lui ?»
Tony sourit. « Bien sûr. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une photo qu'elle tendit à James. Elle montrait un jeune homme très séduisant, aux boucles brunes et aux yeux noisettes. « Quand aura lieu le mariage ?»«
Nous avons prévu d'attendre que Frank obtienne son diplôme. Nous cherchons un appartement. Le mien est trop petit. »
« Celui de Frank n'est pas plus spacieux ?»«
Non, il est aussi petit que le mien. »
« Qu'est-ce que ses parents pensent de vos fiançailles ?»«
Son père est mort. Je rencontre sa mère ce soir, nous dînons ensemble. Elle a fait tout le chemin depuis le pays de Galles. »
« Et Agatha, elle est au courant ?»«
Pas encore. Mais de toute façon, ma vie privée ne la regarde pas. »
« Commandons un dîner et vous continuerez à me raconter. »
Une fois que le serveur eut pris les commandes, Tony expliqua.
« Je l'ai rencontré à un concert de pop. Des jeunes me harcelaient et il est intervenu. On est allé boire un verre. »
« Quand était-ce ? »
« Il y a une semaine. »
James eut envie de dire que c'était un peu précipité, mais sentit qu'il était mal placé pour remettre en question le bonheur de Tony. Alors que le repas se poursuivait, il ne pouvait qu'être heureux que lui et Tony semblent avoir renoué.
« Ne sois pas nerveuse, » dit Frank à Tony ce soir-là.
« Maman va t'adorer, et toi aussi tu l'adoreras. Elle est tellement spirituelle, tellement intelligente et facile à vivre. J'ai réservé une table au George. »
Tony n'avait pas vu de photographie de la mère de Frank et s'imaginait une galloise grassouillette aux joues roses, aux cheveux noirs et à l'accent chantant. Aussi eut-elle un choc en la voyant. Mrs. Evans était une fausse blonde maigre à la peau tellement tirée qu'elle semblait prête à craquer. Sa bouche gonflée au collagène était écarlate et semblait pendre sur son pâle visage émacié. Frank l'étreignit et elle s'agrippa à lui avec férocité. Quand elle finit par le lâcher, ses yeux pâles toisèrent Tony.
Alors voilà ta petite amie.
Oui, c'est Tony.
Je suppose que c'est le diminutif d'Antonia ?
Non, répondit la jeune femme. J'ai été baptisée Tony, avec un I, pas un Y.
Mon Dieu, on affuble les filles de noms tellement étranges de nos jours.
Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Le serveur s'approcha et Mrs. Evans commanda un martini. Frank fit de même, tandis que Tony choisissait une eau pétillante. Mrs. Evans venait de Cardiff. Elle et son fils se lancèrent sans tarder dans une conversation concernant des personnes que Tony ne connaissait pas, Frank riant à gorge déployée à toutes les anecdotes que racontait sa mère. La pluie, qui avait cessé un peu plus tôt, se remit à tomber.
« C'est affreux, » pensa Tony, fixant d'un air sombre les gouttes qui frappaient les carreaux. « Si seulement j'étais comme Mrs. Blocksby, si seulement je croyais en Dieu, je pourrais implorer son aide divine pour qu'il me sorte de là. »
« Tony ?»
cria une voix familière. La jeune femme regarda de l'autre côté de la salle de restaurant. Agatha et Charles fonçaient droit sur leur table. Tony fit les présentations.
« Votre fiancé ?» s'enquit Agatha. « Depuis quand vous connaissez-vous »«
Environ une semaine. »«
Mariage précipité, chèque assuré, c'est ce que je dis toujours, » dit Mrs. Evans. « Je ne veux pas que mon précieux Frank se jette à la tête de la première venue. »« Alors il est sacrément chanceux de s'être dégoté une perle comme Tony ?»
rétorqua Agatha. Elle fit signe au serveur. « Déplacez-nous tous à une table plus grande et apportez du champagne. » Charles lui murmura à l'oreille.
« Tu es en train de te taper l'incruste, Agatha.
Tony a besoin d'aide, »
marmonna celle-ci. Après qu'ils eurent passé commande et que le champagne fut servi, Agatha se leva.
« À Tony !»
lança-t-elle.
« La meilleure détective privée qui soit !»«
Quel drôle de métier pour une jeune fille !» remarqua Mrs. Evans.
Une fois le toast porté, elle se tourna vers son fils et reprit la conversation où il l'avait laissée.
« Nous revenons de Piddlebury, » glissa Agatha à Tony. « Vous avez découvert pourquoi ils ont tous soutenu que les meurtres avaient été commis par une personne extérieure au village ?» s'enquit Tony.
« Ils sont muets comme des tombes, »
dit Charles.
À part Jenny Soper, qui a admis avoir été victime de chantage. Un village vraiment bizarre, tellement fermé sur lui-même. Je parie qu'il y avait beaucoup d'inceste autrefois.
Mrs. Evans fut très ennuyée de s'apercevoir que son fils ne l'écoutait plus. « Vous allez bien maintenant ?» demanda Frank à Agatha.
« Tony m'a raconté que vous aviez reçu un coup sur la tête et que les meurtriers avaient essayé de vous jeter au fond d'un puits. »
Agatha se lança dans le récit extrêmement haut en couleur et passablement enjolivé de ses aventures, ne s'interrompant que pour manger. Frank ne faisait même plus semblant d'écouter sa mère. Mrs. Evans ne put le supporter. Elle interrompit Agatha en lançant d'une voix grêle.
« J'espère qu'après le mariage, Tony ne poursuivra pas dans cette voie peu recommandable. »
« Il faut bien que je gagne ma vie, » protesta Tony.
« Mais il y a des emplois plus convenables. Il se trouve que j'ai une amie qui possède un magasin de fleurs à Mercer. Fleuriste, voilà un métier comme il faut. Vous n'avez qu'à le prendre pour vous, si vous le trouvez si formidable, » répliqua Agatha.
« Vous ne travaillez pas, j'imagine.
Mon pauvre Marmaduke m'a laissé très à l'aise, je vous remercie. »
Agatha pouffa de rire.
« Pauvre homme, ça n'a pas dû être facile pour lui à l'école. »
Mrs. Evans jeta sa serviette sur la table.
« T'en es trop. Je ne me sens pas bien, Frank. Je voudrais m'en aller. »
« Je t'appelle plus tard, » souffla Frank à Tony.
Agatha, Charles et Tony regardèrent Mrs. Evans sortir de la salle de restaurant, cramponnée à son fils. Tony se leva à son tour.
« Agatha, vous ne pouvez pas vous mêler de vos affaires pour une fois ?»
Charles vit la mine déconfite d'Agatha.
« Ne t'en fais pas, »
la rassura-t-il.
« Tony reviendra à la raison. La méchante belle-mère finit toujours par l'emporter. »
Mais le matin suivant, quand Agatha arriva au bureau, elle tomba sur Tony qui l'attendait la mine sombre.
« Je vous donne mon préavis. Un mois, » annonça la jeune femme. « Vous avez failli torpiller mes fiançailles. »«
Je suis désolée, Tony, » implora Agatha. « Mais cette femme est infecte. »«
À aucun moment il ne vous a traversé l'esprit que j'étais capable de me débrouiller ?»
répliqua Tony.
« Je ne suis plus une gamine. »«
Mais où comptez-vous aller ? Qu'allez-vous faire ? » ?»«
Je vais m'engager dans les forces de police. »
« Oh, Tony, s'il vous plaît, restez. Nous n'y arriverons pas sans vous. »
« Il fallait y penser avant. Je vous laisse, il faut que je travaille sur le dossier du divorce Brileys. »
Sur quoi, elle sortit en claquant la porte. Agatha s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Tony émergea du bâtiment et se dirigea vers le parking. Avant de tourner au coin de la rue, elle fit un petit saut comme quelqu'un qui connaîtrait enfin la liberté. Phil passa un bras autour des épaules d'Agatha.
« Ne vous inquiétez pas, » la consola-t-il. « Elle changera d'avis. »
Pourtant, au bout d'un mois, rien chez Tony ne montrait qu'elle pourrait changer d'avis. Agatha décida de lui organiser un pot de départ au bureau. L'équipe arriva tôt, le champagne était dans deux seaux à glace et les amuse-gueules disposés sur les bureaux. Patrick, Simon, Phil, Mrs. Friedman et Agatha avaient acheté des cadeaux. L'horloge indiqua puis dépassa les 9h du soir. Aucun signe de Tony.
« Vérifiez vos courriels, » conseilla Phil. « Elle est peut-être malade. »«
Elle aurait appelé, » protesta Agatha, en jetant tout de même un œil à son ordinateur.
Il y avait bien un message de Tony. « Je ne supportais pas l'idée des adieux. Je suis donc partie au Pays de Galles avec Frank pour rendre visite à sa mère. Merci pour tout, Tony. »
D'une voix tremblante, Agatha le lut à haute voix.
« Tout ça, c'est votre faute !»
hurla Simon, à qui Tony avait fait le récit du désastreux dîner.
« Moi aussi, je vous donne mon préavis !»
Tous le regardèrent ébahis, tandis qu'il traversait la pièce et claquait la porte derrière lui. Assise à son bureau, Agatha regardait fixement son ordinateur.
« Je ne sais pas pour vous, » dit Patrick, « mais moi je boirais bien un petit verre. Allez Agatha, ce soir, on finiront comme des queues de pelle. »
Il déboucha une bouteille de champagne et commença à se servir. Il leva son verre.
« Agatha Raisin, la meilleure détective au monde !»
C'est alors que l'indomptable Agatha se mit à pleurer. Une semaine plus tard, Phil rassembla les cadeaux dans une grande boîte et les apporta à l'appartement de Tony.
« Des cadeaux pour toi, » dit-il quand elle ouvrit la porte.
« Entre, » fit Tony d'une voix atone.
Phil déposa la boîte par terre.
« Café ?» proposa Tony.
« Non, merci, » répondit Phil.
« Il faut que je retourne bosser. » « Félicitations, au fait. Tu as réussi à faire pleurer notre Agatha. »
Tony rougit.
« Je suis libre, Phil. C'est ma vie. Je pars si je veux. »
« Écoute, elle a organisé un pot de départ pour toi. On a tous apporté des cadeaux. Et toi, tout ce que tu fais, c'est envoyer un mail.
Tony baissa la tête. Je lui présenterai mes excuses.
Non, ne fais pas ça. Reste à l'écart et laisse-la oublier cette histoire. Simon a démissionné, lui aussi. On a beaucoup de travail. Au revoir, Tony.
Après le départ de Phil, Tony ouvrit ses cadeaux. Agatha lui avait offert un coffret de produits de beauté Chanel. Phil, un chèque cadeau pour des livres. Patrick, un manuel sur le travail de la police. Mrs. Friedman, une boîte de mouchoirs brodés. Et Simon, un grand flacon de parfum Dior. Elle resta assise un long moment, méditant sur la semaine horrible qu'elle avait passée à Cardiff. Tony se sentait prise au piège par Mrs. Evans, bien plus qu'elle ne l'avait jamais été avec Agatha, car sa future belle-mère avait tout planifié. Tony et Frank se marieraient rapidement et viendraient vivre avec elle dans son pavillon de plein pied baptisé Mon Repos. Frank terminerait ses études à Cardiff et Tony trouverait un emploi convenable. Tony et Frank s'étaient disputés. Frank trouvait ce projet enthousiasmant. Les fiançailles étaient toujours d'actualité, mais elle et Frank s'étaient quittés en mauvais termes. « J'étais tellement amoureuse », pensa Tony, se souvenant des jours où elle était dans sa bulle de bonheur. Maintenant, la bulle avait éclaté et elle ne savait pas quoi faire. Elle finit par appeler Bill Wong et lui donna rendez-vous pour lui demander de vive voix si, à son avis, elle faisait bien de s'engager dans la police, en dépit du fait que Bill avait lui aussi une mère affreuse dont il ne verrait jamais les défauts. Ils se retrouvèrent le soir même dans un pub. Bill écouta avec attention toute la saga, même s'il en avait déjà entendu une bonne partie de la bouche d'Agatha. Il se sentit embarrassé à mesure que Tony poursuivait son récit d'une voix douce, se remémorant les fois où sa propre mère avait annoncé à sa dernière conquête que le couple habiterait avec les Wong et la façon dont son dernier amour avait fondu comme neige au soleil. Quand elle eut terminé, il dit avec prudence « Tu avais beaucoup de liberté quand tu travaillais pour Agatha ?» La discipline est très stricte dans la police, et avec les règles d'embauche de personnes issues des minorités ethniques, tu n'as aucune chance de trouver un premier poste à Mercer. Sans compter qu'après ta formation, tu commenceras en bas de l'échelle, à la circulation sans doute. Et puis, la police peut être assez sexiste. Nous ne sommes pas les pires à Mercer, mais certains commissariats ne sont pas tendres avec les femmes, d'après ce que je sais. Et Simon, où est-il? Il est parti travailler pour un des concurrents d'Agatha. Pauvre Agatha. Quelle pagaille! Mrs. Evans est aussi affreuse qu'elle le dit. Pire. Les fiançailles sont toujours de mise? Tout juste. Mon conseil est le suivant. Va voir Agatha et demande-lui de te réembaucher. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas venue au pot de départ qu'elle avait organisé pour moi. Ils m'ont fait des cadeaux. Tu sais, Agatha a plus grand cœur que tu ne le crois. Je vous l'ai déjà dit, a sonné Agatha à Mrs. Blugsby ce soir-là. « Je ne reprendrai pas cette petite ingrate, quand bien même elle me supplierait à genoux. » Un ange passa. « Souvent, les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils sont jaloux, » répondit la femme du pasteur, après avoir bu une gorgée de sherry. « Parce que si on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on se sent en compétition avec cette personne. Mais on la méprise aussi, comme ça. Si l'on vous accuse de jalousie, vous pouvez rétorquer « Jalouse d'elle? Vous êtes folle? Ce n'est qu'une... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. »
« Je ne suis pas jalouse de Tony !» protesta Agatha, têtue comme une mule.
Miss Gilmore est très jeune. Elle se sent peut-être un peu perdue maintenant qu'elle a passé quelque temps avec sa future belle-mère. Agatha poussa un gros soupir.
« Elle ne reviendra pas. C'est le début d'une nouvelle ère. Je fais passer des entretiens de nouveaux détectives demain. Je peux oublier Piddlebury. Quelle bande d'idiots! Aucun d'eux n'a eu le cran d'aller voir la police. »
Si on vous fait chanter pour raconter des mensonges sur un meurtrier, le maître chanteur est sans doute le meurtrier, ça tombe sous le sens, non? Qu'ils aillent tous se faire voir!
Je pense sincèrement que ce village ne sera plus jamais le même, observa Mrs. Blugsby. Il va changer, pour le mieux.
Je demande à voir, maugréa Agatha.
Le brouillard enveloppait le village de Carsley quand Agatha regagna d'un pas lourd son cottage. La voix désinvolte de Charles lui parvint depuis le salon.
Par ici, Aggie!
Agatha pénétra dans la pièce d'un pas décidé.
Combien de fois t'ai-je répété de ne pas m'appeler?
Sa voix se perdit. Tony était assise près de la cheminée. Elle se leva et fit face à Agatha.
Je me demandais si je pouvais récupérer mon job,
bégaya-t-elle. Tête baissée, Agatha fixait le plancher.
Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer, répondit-elle enfin.
Charles,
Sers-moi un gin tonic pendant que j'enlève mon manteau. »
Agatha retourna dans l'entrée et suspendit son manteau humide. Elle se regarda dans le miroir. Un sourire se dessina lentement sur son visage. « Peut-être Mrs. Blugsby a-t-elle raison, » pensa Agatha Raisin. « Peut-être que Dieu existe après tout. » Tony est revenu et Simon est parti. À la bonne heure.
Vous venez d'écouter Agatha Raisin enquête, tome 24, Gare aux empoisonneuses, de M.C. Beaton, lu par Françoise Carrière, une production Audible Studio.